بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد nous l'avons évoqué aujourd'hui le 8 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 1442 après l'hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 7e cours, notre série de cours concernant l'étude, le commentaire du livre Al-Usul al-Thalatha de l'imam al-Mujaddid Cheikh d'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Thamimi rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés au deuxième fondement, au début du deuxième fondement. Comme d'habitude, je vais lire la partie du matn que nous allons étudier aujourd'hui, puis lire sa traduction. Al-Asl al-Thani, qala rahimahullahu ta'ala, ma'rifatu din al-Islam bil-adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bil-tawhid, wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah, wal-bara'atu min al-shirki wa ahlihi, wa huwa thalath maratib, الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى الشهادتان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Une parenthèse, comme j'ai dit précédemment, dans certains moutons que vous pouvez lire, sur lesquels vous pouvez suivre, il y a parfois quelques petites différences. Il est possible que ce soit une erreur de la copie de laquelle vous lisez, ou peut-être de la copie de laquelle je lis moi-même. Il est possible que ce soit une différence entre les manuscrits qui ont été rapportés de Cheikh al-Islam, c'est-à-dire de sa main, qu'il a écrit de sa main, ou que ses élèves et ses enfants et petits-enfants ont écrit. Donc ceci, lorsque ce n'est pas une erreur flagrante, je ne mettrai pas un point dessus. Il est possible donc qu'il y ait une divergence entre ce que je lis et ce que vous lisez, une différence, une petite différence, une simple, une différence sur certains mots. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا لا شريك له في ملكه. Et dans d'autres versions, vous trouvez كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. On va s'arrêter ici, on va essayer d'expliquer jusqu'à cette partie. Il dit, rahimallah, dans le sens de ses paroles, le deuxième principe, la connaissance de la religion, de l'islam, avec ses preuves. L'islam signifie la soumission à Allah, l'islam, par l'acceptation de son unicité, al-tawhid, et la soumission par l'obéissance de ses ordres, al-inqiyad, et le désaveu du shirk, du polythéisme, et de ses adeptes, des adeptes du polythéisme. Et l'islam est de 3 degrés. Al-islam, la soumission, al-iman, la foi, al-ihsan, la bonté ou la perfection dans la foi. Et chacun de ces degrés a des piliers, des arcanes. Le premier degré, al-islam, la soumission. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier, le témoignage, al-shahada, de la ilaha illallah, ou plutôt, ici dans le matn, donc al-shahadatan, les deux témoignages de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le deuxième pilier, l'établissement ou l'accomplissement de la prière. Le troisième pilier, donner al-zakah. Le quatrième, le jeûne du mois de Ramadan. Le cinquième, al-hajj, à la maison d'Allah, le pèlerinage. La preuve du témoignage, al-shahada, est dans le verset suivant, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Allah témoigne, ainsi que les anges et les gens doués de science, qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. Nul ne mérite d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. La signification du témoignage de foi, la ilaha illallah, est nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah est une affirmation ou est l'affirmation que l'adoration est due à Allah seul. Et qu'il n'a pas d'associé dans son adoration, comme il n'a pas d'associé dans son royaume, dans sa royauté. Et le verset qui clarifie cette interprétation est le suivant. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car en vérité c'est lui qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Ainsi que le verset suivant dit, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. » Et la preuve du témoignage, « Al-Shahada » que Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est le verset suivant, « Certes, un messager, pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Et Muhammad ibn Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, signifie l'obéir dans tout ce qu'il a ordonné, croire avec conviction en tout ce qu'il a dit, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit, ne pas adorer Allah par autre que par sa législation. Nous arrêterons ici pour le moment. Ceci est le deuxième fondement de ces trois fondements évoqués par Cheikh l'Islam ici dans son livre, sur lequel il a construit son livre, les trois fondements. Ce fondement est la religion de l'Islam. Et cette religion a 3 degrés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqués, comme dans le hadith qui est appelé hadith Jibril, où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Ce hadith, qui viendra plus tard, qui viendra à la fin de ce deuxième fondement que nous expliquerons plus tard. Le premier de ces degrés est l'islam, le deuxième est l'iman et le troisième est l'ihsan. Comme ceci ont été évoqués, ces 3 degrés dans ce hadith appelé hadith Jibril. Et l'ensemble de ces degrés, de ces paliers, rentre dans l'appellation de la religion de l'islam. Cette religion qui a été légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs et avec laquelle il envoya l'ensemble de ses messagers, alayhim salatu wassalam. Et le premier de ces paliers, le premier de ces degrés est l'islam, qui est traduit communément comme étant la soumission. Et l'islam est construit sur cinq piliers, comme évoqué dans ce hadith rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhu an Abi, rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ses paroles, l'islam est construit sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, l'accomplissement de la prière, le don de la zakat, le don de l'aumône légal, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Ici, les savants disent que l'islam, lorsque nous évoquons ces trois paliers, ces trois degrés de la religion, l'islam englobe les œuvres apparentes. Les œuvres apparentes. Ici, un point très important concernant cela, c'est une règle que les savants appellent « إِذَا جَتَمَعَا إِفْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا إِجَتَمَعَا » Une règle très importante. « إِذَا جَتَمَعَا إِفْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا إِجَتَمَعَا » Ce qui veut dire « Lorsqu'ils se rassemblent, les deux, on a dit « إِجَتَمَعَا » Ces deux-là, lorsqu'ils se rassemblent, ils se divisent, ils se séparent, ils n'ont pas le même sens. Et lorsqu'ils sont séparés, « وَإِذَا افْتَرَقَا » Ces deux-là, إِجَتَمَعَا » Ils ont le même sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette règle est appliquée à plusieurs termes. Ici, les deux termes qui nous intéressent sont « al-iman » ou « al-islam ». « Al-iman » qui est traduit communément par « la foi » et « l'islam » qui est traduit par « la soumission » par la religion de l'islam. Lorsque ces deux termes sont évoqués ensemble, « إِذَا جَتَمَعَا » lorsqu'ils sont évoqués ensemble ces deux termes, dans un hadith, dans un verset, « إِفْتَرَقَا » ils n'ont pas le même sens. « وَإِذَا افْتَرَقَا » lorsqu'ils ne sont pas évoqués ensemble, c'est-à-dire un seul des deux est évoqué dans un hadith ou dans un verset, « إِجَتَمَعَا » c'est-à-dire leur sens est le même, c'est-à-dire l'un englobe l'autre. Lorsque l'islam et l'iman seront évoqués dans un même verset ou dans un même hadith, ils auront le même sens. Ils auront un sens différent. Chacun aura un sens précis. Et l'islam ici sera ce qui englobera les œuvres apparentes, comme l'ont dit les savants, comme je viens de l'évoquer, et l'iman, les œuvres cachées, les œuvres du cœur. Et lorsqu'ils sont divisés, c'est-à-dire l'un seul d'entre eux est évoqué dans un hadith ou dans un verset, eh bien, lorsqu'on verra dans un hadith ou dans un verset l'islam qui est évoqué, celui-ci englobera l'islam ou l'iman ou l'ihsan. Comme cela, l'iman, lorsqu'il sera évoqué dans un hadith ou dans un verset, il englobera l'islam ou l'iman ou l'ihsan. Et cette règle est applicable à plusieurs termes légiférés. Ici, nous attarderons seulement sur ces deux termes-là, l'iman ou l'islam. Puisqu'on vient d'évoquer la parole des savants, où ils disent que l'islam est un terme qui englobe les œuvres apparentes, comme as-salah, was-zakah, was-siyam, al-hajj, et l'iman, des œuvres qui sont cachées, des œuvres du cœur, la foi en Allah, ses anges, ses prophètes, ses livres, le jour du jugement, le jour dernier, le al-qadr, la prédestination, bonne ou mauvaise, ce sont quelque chose qui désigne une chose qui se trouve dans le cœur du serviteur. À l'inverse de l'islam, qui sont des œuvres voyantes, qui sont la prière, aussi avant cela, le fait de prononcer ash-shahadatayn, les deux attestations de foi, le fait de donner az-zakah, le fait de jeûner le mois de Ramadan, de faire al-hajj, le pèlerinage. Les savants évoquent ce verset qui se trouve dans Surat al-Hujurat, les appartements, à Surat numéro 49, donc le verset numéro 14. Allah Azza wa Jalla dit, les bédouins ont dit, nous avons la foi, amanna. Dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous sommes simplement soumis, aslamna, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ici dans ce verset, on voit que les deux termes ont été évoqués dans un même verset. C'est-à-dire, on utilise cette règle-là en disant, que ici, lorsqu'ils sont évoqués ensemble dans le même verset, eh bien, ils n'ont pas le même sens. C'est pour ça que ici, Allah Azza wa Jal dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi, dit, vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, aslamna. Par contre, dans d'autres versets ou dans d'autres ahadiths, bien sûr, ici, cette règle-là est une règle générale. Elle peut avoir des exceptions. Et c'est le cas de la grande majorité des règles. Une règle a toujours ses exceptions. Ou bien souvent ses exceptions. Ici, nous avons, par exemple, dans ce hadith qui est connu comme étant le hadith de Wafd Abd al-Qais, c'est-à-dire la délégation d'une tribu qui s'appelle Abd al-Qais. Eh bien, lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé, savez-vous ce qu'est l'iman, la foi? Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, la foi est que tu attestes qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah et que je suis son envoyé, donc ici, et que tu accomplisses la prière, et jusqu'à la fin du hadith. Donc ici, nous voyons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à propos de l'iman, de la foi, et il a expliqué l'iman par l'islam, ce qui est connu communément comme étant les piliers de l'islam. Donc ici, nous avons un seul de ces deux termes, l'iman, qui est évoqué dans un hadith ou dans un verset. Ici, un seul de ces deux termes, il englobe l'ensemble des autres termes qui sont l'islam et l'ihsan. Ici une parenthèse concernant cette règle. Donc, le premier de ces degrés est l'islam, qui est construit sur cinq piliers. Ces cinq piliers que, comme nous l'avons évoqué à la fin du dernier cours, il serait de coutume de dire que l'ensemble des musulmans les connaissent, savent ce qu'ils impliquent et les pratiquent, mais malheureusement, la réalité est autre que cela. Nous voyons malheureusement, d'où l'importance d'apprendre et d'étudier et d'enseigner ces livres-là et de toujours répéter l'étude et l'enseignement de ces livres qui sont des livres qui traitent de la croyance islamique, de At-Tawhid, cette chose à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa communauté pendant 23 ans, car il vécut 23 ans après le début de sa mission, le début de la révélation. Et du début de sa révélation, jusqu'à sa mort, jusqu'au dernier souffle de sa vie, il l'appelait au Tawhid et il mettait en garde contre Ash-Shirk, le polythéisme. Il nous convient donc à nous de suivre cet exemple sans aucun doute. La qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Vous aviez certes dans le messager d'Allah un bon exemple ou un meilleur exemple à suivre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah abondamment. Et comme je l'ai dit, la réalité est autre que cela, c'est-à-dire que tu peux demander parfois à certains parmi les gens de la masse, parmi les musulmans, quels sont les piliers de l'islam. Il peut t'en dire 4, parfois 3, il ne sait même pas qu'il y en a 5. Parfois il se trompe entre celui-ci et celui-ci, peut-être il va évoquer certains piliers de la foi. Dans les piliers de l'islam, si tu lui demandes quels sont les piliers de la foi, il ne sait pas, il n'a jamais entendu parler de cela. C'est qu'il y a un grand problème. Ceux-ci sont les bases de notre croyance, qui sont les bases de notre religion. Donc, le premier de ces piliers, les piliers de l'islam, qui est Ash-Shahada, l'attestation de foi, qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est la première partie de cette attestation de foi, par laquelle le serviteur rentre en islam lorsqu'il la prononce. Cette dernière qui veut dire, qui signifie, comme l'a évoqué Cheikh l'islam ici, « La ma'abouda bihaqqin illallah » que nous avons expliqué ici, c'est-à-dire « Pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. » Elle est composée d'affirmations et de négations, comme l'a évoqué Cheikh l'islam ici. Nous allons y revenir tout de suite. Et les savants disent que le fait de la prononcer simplement sans œuvrer selon ce qu'elle implique, cette chose-là n'est pas profitable pour le serviteur. Cette chose-là n'est pas profitable. C'est-à-dire que le serviteur entre en islam avec cette parole. Mais s'il reste sur cela, sans savoir ce qu'elle implique, et n'œuvre pas selon ce qu'elle implique, et n'œuvre pas selon ce qu'implique la religion de l'islam, cette parole qu'il aura prononcée ne lui sera pas profitable. Il la prononce sans avoir de croyance correcte derrière cela. Et cette chose vient en apprenant ce que cette parole, Kalimat al-Tawhid, implique. Comme le dit Al-Shir al-Allama Hafid al-Hakami, rahimahullah, dans sa poésie Sulam al-Wusul, il dit فَإِنَّهُ لَيَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. Pour traduire approximativement, il dit celui qui prononce cette parole, il ne profite pas de la prononciation simplement sans avoir complété ses conditions. Comme vous le savez, les conditions de cette parole, la ilaha illallah, sont au nombre de 7, évoquées par les savants. Il dit فَإِنَّهُ لَيَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. C'est-à-dire ici, Cheikh Hafid Hakami rappelle ces 7 conditions de cette parole La ilaha illallah. Il dit العلم, la science, la connaissance, واليقين, la certitude, والقبول, l'acceptation, والانقياد فدر ما أقول, الانقياد, la soumission, le fait d'œuvrer selon ce qu'elle implique, qui contredit le fait de délaisser ce qu'implique التارك, le fait de délaisser ce qu'implique cette parole, والانقياد فدر ما أقول, والصدق, la véracité, والإخلاص, la sincérité, wal mahabba, l'amour de cette parole, l'amour de ce qu'elle implique, l'amour des gens qui prononcent cette parole, des adeptes de cette parole, la ilaha illallah. Waffaqaka Allahu lima ahabba. Ici, ce n'est pas le moment de détailler ces 7 conditions, on aura l'occasion de le faire plus tard, mais il faut savoir, comme je l'ai dit ici, comme rappelé par les savants, que cette parole est la parole par laquelle, ou avec laquelle, le serviteur rentre en islam. Lorsqu'il prononce Ash-shahadatayn, Ash-shahadu an la ilaha illallah, wa Ash-shahadu anna Muhammadan Rasulullah, à partir de là, la personne rentre en islam. Il lui convient d'œuvrer selon ce qu'implique cette parole. La première partie de cette attestation, Ash-shahadu an la ilaha illallah, comme Cheikh al-Islam nous l'a dit ici, elle signifie, j'atteste, elle signifie que la personne atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qui veut dire, ou ce qui est expliqué par les savants comme étant la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Lorsque tu, et vous le trouverez dans beaucoup de livres, surtout il y a des années en arrière, je ne sais pas aujourd'hui concernant la littérature ou les traductions qu'ils font ou ce qu'ils écrivent en français, mais il y a des années, plus d'une dizaine d'années en arrière, tu trouvais que cette traduction de la ilaha illallah dans la bibliothèque islamique française ou francophone. C'était traduit par point de divinité en dehors d'Allah. Point de divinité en dehors d'Allah. Une personne qui lit cette parole, qui ne comprend pas l'arabe, qui n'est pas arabophone, qui ne comprend pas l'arabe, c'est-à-dire il la lit en arabe, il n'a pas de base dans les fondements de la langue arabe, il traduira cette parole de cette manière. La ilaha, pas de divinité, illallah, en dehors d'Allah. Nous voyons que cette traduction est une traduction erronée. Et la personne qui comprend cette parole de cette manière a une compréhension erronée de cette parole. Une compréhension que n'avaient pas les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il comprend moins cette parole, la ilaha illallah, même s'il fait partie des musulmans, il comprend moins bien cette parole que Abu Lahab et Abu Jahl. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir, a été envoyé, pardon, au début de sa mission, a été envoyé donc à son peuple et les a appelés à unifier Allah Azza wa Jalla, il leur disait Qulu la ilaha illallah, tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous atteindrez ainsi le succès. Ils lui ont répondu Aja'ala al-alihata ilahan wahida. « Inna hadha la shay'un ujab. » Va-t-il faire de toutes nos divinités une seule divinité, ceci est certes une chose très étonnante. C'est-à-dire qu'ils ont compris le sens de cette parole. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les appelle pas à cette simple compréhension, pas de divinité en dehors d'Allah. Plutôt, pas de divinité digne d'être adorée, en droit d'être adorée en dehors d'Allah Azzawajal. Est-ce qu'il va faire de toutes nos divinités que nous adorons, à qui nous vouons des adorations de toutes sortes, une seule divinité que nous devrons adorer uniquement en dehors de toutes les autres? Ils ont compris donc cette parole mieux que certains de nos jours qui traduisent cette parole comme pas de Dieu en dehors de Dieu, pas de divinité en dehors d'Allah. Ceci est une erreur. Plutôt, cette parole, son sens est « La ma'bouda bihaqqin illallah » pas de divinité digne d'être adorée, en droit d'être adorée en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est légitime qu'une personne te pose la question. Je suis d'accord avec toi, j'accepte ta parole. « La ma'bouda bihaqqin illallah » Mais ce que nous prononçons, nous les musulmans, est Ashhadu an la ilaha illallah. Comment es-tu venu avec cette parole la ma'bouda bihaqqin illallah lorsque tu appelles quelqu'un à cela? Chacun ici fait un retour sur lui-même et cherche à savoir s'il peut lui expliquer le sens de cette parole. La plupart d'entre vous ici connaissent le sens la ma'bouda bihaqqin illallah. Mais si une personne te pose la question, te dit mais ce qui est venu dans l'ahadith, ce que les musulmans ont l'habitude de prononcer, une personne lorsqu'il vient, il veut se convertir à l'islam, tu lui fais prononcer Ashhadu an la ilaha illallah. Tu ne lui dis pas de dire Ashhadu an la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est vrai? Donc, chacun d'entre nous fait un retour ici sur lui-même. Est-ce qu'il est capable d'expliquer cette parole ou pas? Ici, on va expliquer comment on est arrivé à cette parole. La ma'bouda bihaqqin illallah. Comme l'a dit ici sur l'islam. C'est-à-dire, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Que le serviteur reconnaisse avec sa langue, avec son cœur, qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car le mot ilah, qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsqu'on dit la ilaha illallah, le mot ilah, qu'on traduit par divinité, qu'est-ce qu'il veut dire? En effet, on peut le traduire par divinité, car en arabe, al-ilah ou al-ma'louh, c'est-à-dire al-ma'boud, celui qui est adoré, la divinité. Donc c'est une bonne traduction en français de dire al-ilah, la divinité, pas de divinité. Lorsque tu dis pas de divinité en dehors d'Allah, est-ce que cette parole est exacte? Simplement en regardant ce qui se passe autour de toi, la réalité de la chose, est-ce que cette parole pas de divinité en dehors d'Allah est exacte? Est-ce que c'est exact? Pourquoi? Combien de divinités combien il y a-t-il de divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il y en a beaucoup. Isa alayhi salam, c'est une divinité ou pas? C'est un terme qui peut choquer. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu dis Isa alayhi salam. Ils traduisent communément par Jésus. Alayhi salam, c'est une divinité ou pas? C'est une divinité sans aucun doute. C'est-à-dire que c'est une divinité. Mais est-ce que c'est une divinité en droit d'être adorée? Ce n'est pas une divinité en droit d'être adorée. Ici, la différence entre Isa alayhi salam et Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que le fait de dire que Isa alayhi salam est une divinité veut dire, implique que lui-même a appelé à cela? En aucun cas. Mais nous parlons de la réalité de la chose. Isa alayhi salam est une divinité. Pourquoi? Car il est divinisé. Par certaines personnes, par les chrétiens par exemple, ils divinisent Isa alayhi salam. Certaines vaches, par exemple, ou certains autres animaux dans certaines contrées, sont des divinités. Car les gens de ces contrées les ont divinisées, les prennent comme divinités. Est-ce que cette divinité, tel animal, les vaches, les rats, comme vous le savez, les singes, sont divinisés dans certaines contrées, est-ce qu'ils sont en droit d'être divinisés? D'être adoré, sans aucun doute, ils ne sont pas en droit. Donc il n'y a pas de relation entre le fait de dire que telle chose est une divinité et le fait d'affirmer que cette chose a lui-même demandé le fait d'être une divinité, ni le fait de dire que cette chose est une divinité, cela implique de dire que cette divinité est en droit d'être adorée. Vous voyez la différence entre ces deux choses-là, c'est très important. Donc, « El-Ilah », lorsque tu dis « La ilaha », pas de divinité, « El-Ilah », qu'est-ce que cela veut dire ?« El-Ilah », la divinité, « El-Ma'boud », »,« El-Ma'lou ». C'est pour cela que les savants ont dit « La Ma'boud » au lieu de dire « La ilaha ». Lorsqu'ils disent « La Ma'boud Abihaq », ils ne te disent pas d'adorer Allah Azza wa Jalla en prononçant cette parole. C'est-à-dire de rendre que lorsque quelqu'un veut se convertir, tu lui dis de dire « Dis La Ma'boud Abihaq illallah ». Il t'explique le sens de « La ilaha illallah ». Car aujourd'hui, comme dans certains siècles antérieurs, les gens ne comprenaient pas de manière correcte cette parole « La ilaha illallah ». Il y avait donc ce besoin d'expliquer cette parole. Ils ne comprenaient pas cette parole à la manière dont le comprenaient les Arabes dès l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui comprennent les fondements de la langue arabe. Ici, on revient à notre explication. « La ma'boud bihaqqin illallah »« La ma'boud » Nous sommes tous d'accord. « Bihaq »« Bihaq » D'où est venue cette parole? Les savants ont évoqué ce verset de surat al-Hajj, donc la surat numéro 22, le verset numéro 62. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, « C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. »« Zalika bi anna allaha huwa al-haq »« Zalika bi anna allaha huwa al-haq » C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, Al-Haq. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Les savants ont pris de ce verset cette parole, Bihaq, comme il est clair dans ce verset que nous venons de lire. Mais ce n'est pas cette parole que nous avons l'habitude de dire. Nous avons toujours l'habitude de dire La ilaha illallah. Comment tu es arrivé à cette conclusion? J'ai évoqué au début de l'explication le fait que les Arabes, de base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenait très bien que la ilaha illallah, lorsqu'il a dit dites la ilaha illallah tuflihu, vous réussirez, dites la ilaha illallah, vous réussirez, il voulait par cela le sens de la ma'boud bihaqqin illallah, avec comme preuve leur parole, aj'al al-aliyata ilahan wahida, in hadha la shay'un ujab, va-t-il faire de nos divinités une seule divinité, ceci est certes une chose étonnante. Car dans leur langue, la langue des Arabes, le terme ici, ce sera un petit peu plus compliqué, ce sera plus pour les arabophones. Ici, nous avons le mot « la ilaha ». « La », c'est ce qu'on appelle « la nafia lil-jins ». Dans la grammaire arabe, vous avez, par exemple, le sujet « al-mubtada », l'information « al-khabar », vous avez le verbe, celui qui fait l'action, etc. Comme dans la grammaire française, pour ceux qui n'ont pas étudié la grammaire arabe, en une parenthèse, je vous enjoins vraiment à cela, car l'arabe, comme vous le savez, est la langue de la révélation. Je vous enjoins vraiment à l'apprendre afin de profiter pleinement du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la relation avec l'ulama, les savants. Là, qu'on appelle al-nafi al-jins, ilaha, qui est pour ceux qui apprennent la langue arabe, qui est ism la nafiya lil-jins, ismun laha, car la nafiya lil-jins ta'amalu amal inna fatansibu al-mubtada wa yakun usman laha wa tarfa'u al-khabar wa yakun khabaran laha. Donc la ilaha, où est le khabar, où est l'information? Ici nous sommes dans une phrase nominale en arabe, il faut un sujet et une information. Mubtada wa khabar. Al-Mubtada, on a dit que c'était ilah, pas de divinité. Où est le khabar? Illallah, en dehors d'Allah, ceci n'est pas une information. Où est l'information? L'information a été effacée. Car bien souvent dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, on efface des parties dans les phrases. Des fois on efface le sujet, des fois on va effacer celui qui fait l'action. Et des fois, on va effacer, comme ici, l'information. Et ceci est connu dans la langue des Arabes. Lorsque tu dis, par exemple, une personne te demande « Aïna Ya'qub ?» Celui qui répond, il dit « Fil masjid ?» Fil masjid, c'est simplement l'information ou le sujet? Le sujet, c'est Ya'qub. Ce qui aurait été correct, ce serait de dire « Ya'qub Fil Masjid, c'est comme ça que tu réponds. Yaqub est à la mosquée. Mais ceci est connu dans la langue des Arabes que tu effaces parfois car cette chose-là est connue. Bien connue. Tu m'as posé la question de Yaqub. Je ne te parle pas d'Abd Samad. Donc au moment où tu vas dire Fil Masjid, la personne qui te demande, qui t'a posé la question, sait très bien que tu parles de Yaqub et non d'Abd Samad. Il n'y a donc pas besoin de rappeler le sujet qui est Yaqub. Vous comprenez, cette chose est une chose très connue dans la langue des Arabes. Comme cela, par rapport à l'information de cette règle, la nafiya lil jins, elle est bien souvent effacée, ceci est une règle de base chez les Arabes. Comme le dit Ibn Malik dans son poème de plus de 1000 vers, qui s'appelle Al-Fiyah, qui est connu, il dit « Vasha'a fi dhal bab isqatul khabar » إذا المراد من سقوطه ظهر وشاع في ذا الباب il a été répondu dans ce chapitre وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر le fait d'effacer l'information إذا المراد من سقوطه ظهر lorsque ce qui est voulu est quelque chose qui est clair, clairement connu. Donc ce qui est connu dans la langue des Arabes, c'est que l'information de dans cette règle la nafiya lil jins sera bien souvent effacé lorsque l'information est connue par tout le monde. Lorsque tu dis « La ilaha illallah », cette chose-là à leur époque, qui eux étaient des Arabes de base, ils comprennent leur langue de manière, comme on pourrait dire entre guillemets, innée, c'est-à-dire sans avoir besoin de l'étudier, d'étudier des règles de grammaire. Lorsqu'ils entendent « La ilaha illallah », ils comprennent très bien « La ma'abouda bihaqqin illallah ». Alors que des gens de notre époque et de certaines époques passées, lorsqu'ils entendent « La ilaha illallah » et qu'ils le traduisent par exemple par « point de Dieu en dehors de Dieu »,« point de divinité en dehors d'Allah », c'est une grosse erreur. Une grosse et grossière erreur. La personne ne comprend même pas cette attestation de foi. « La ilaha illallah »,« La ma'abouda bihaqqin illallah ». On va terminer sur la deuxième partie de « Al-Shahada » qui est l'attestation, le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé, le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sa signification, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, est le fait de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Il a quatre points. Ta'atu fi ma amar. Apprenez ces quatre points, c'est très important. Si on te dit que veut dire cette attestation? Lorsque tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Ce que cela veut dire, son sens, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais qu'est-ce que cela implique? Ça implique quatre choses, comme l'a évoqué ici Cheikh l'Islam dans le matin. Apprends-les par cœur. Ta'atu fi ma amar, le fait de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, le fait de croire avec conviction en tout ce qu'il t'a informé, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a rapporté. Croire avec conviction, rendre véridique tout ce qu'il nous a informé. وَجَتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. S'abstenir et s'écarter de ce qu'il nous a interdit. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, de ne pas adorer Allah par autre que par sa législation, ce qu'il a légiféré. Ici, nous n'allons pas beaucoup nous étaler concernant le commentaire de cela, car le troisième fondement, pardon, est la connaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, nous nous étalerons un peu plus sur cela. Ici, nous avons évoqué la signification de cette attestation, et sa preuve qui a été évoquée par Cheikh l'Islam ici est, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le verset 128 de Sourate At-Tawba, la Sourate numéro 9. Ici, juste une petite faïda, un petit bénéfice que nous retirons ici. Ici, Allah Azza wa Jal dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, traduit par, certes, un messager pris parmi vous, min anfusikum, pris parmi vous, vous est venu. Dans certaines versions, dans certaines récitations, dans certaines lectures du Coran, on dit laqad ja'akum rasulun min anfasikum, min anfasikum. Et si on a min anfusikum de vous-même, min anfasikum min annafasa, c'est-à-dire min anfasikum parmi les meilleurs d'entre vous. Il vous est certes venu un messager parmi les meilleurs d'entre vous, min anfasikum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de Quraysh. Quraysh qui était la meilleure des tribus à cette époque, min anfasikum. Ceci est la signification de cette attestation. Il y a, et nous terminons sur cela, le fait que cette attestation implique les points que nous avons donnés ici. Il implique aussi, ou elle implique aussi, le fait de connaître et de reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de part dans la seigneurie, al-Rububiyya. Il n'a pas non plus de part dans al-Uluhiyya, c'est-à-dire il n'a pas de droit à l'adoration. Ceci fait partie de ta reconnaissance que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Et ceci implique que tu ne lui voueras aucune sorte d'adoration. Car aucune sorte d'adoration n'a le droit d'être vouée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi ces sortes d'adoration, comment une personne, un musulman, peut vouer une sorte d'adoration au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons évoqué dans les sortes d'adoration, ad-du'a, si vous vous rappelez. Comme cela, lorsque nous avons expliqué Al-Qawad Al-Arba, nous avons parlé de Al-Shafa'a, le fait de demander Al-Shafa'a. Lorsque tu demandes, comme certaines personnes le font, lorsqu'ils vont dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont devant sa tombe et ils disent Ya Rasulallah, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux. Ceci, comment s'appelle cette pratique? Nous l'avons évoqué dans le Qawad Al-Arba, Abdallah Tfaddal. Shirk, Shirk Akbar, c'est du polythéisme majeur. Pourquoi? Car cette personne a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a voué une sorte d'adoration, il lui a demandé directement l'intercession. On a dit que l'intercession ne se demande qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a, l'invocation ne doit être vouée qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, comme l'ensemble des actes d'adoration. Et ce qui est correct, nous l'avons évoqué dans le Qawad al-Arba, ce qui est correct, c'est de dire quoi lorsque tu désires l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu désires demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kamel Tfaddal. Allahumma shaffi'a fiyya rasulaka. Allahumma shaffi'a fiyya rasulaka sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, à ce moment-là, tu demandes, tu invoques Allah et tu lui demandes à lui l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'aller devant sa tombe et de lui demander, certaines personnes qui vont devant sa tombe, qui frottent la tombe afin de demander un bien, ces choses-là, il n'y a pas de doute que ce ne sont pas des choses qui sont légiférées. Et lorsque tu attestes réellement, avec sincérité et véracité, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, ceci implique le fait que tu reconnaisses que il ne lui appartient aucune part dans Ar-Rububiyya, la seigneurie, comme cela ne lui appartient aucune part dans Al-Uluhiyya, l'adoration, le droit à l'adoration. Plutôt, ce dernier est un messager, est un prophète messager, et c'est le dernier, le sceau des prophètes, aucun prophète après lui, comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie aussi des choses que ta reconnaissance, ton attestation implique, le fait que tu reconnaisses qu'il n'y a pas de messager après lui. Pourquoi? Car lui-même nous a informé de cela. On l'a dit parmi les quatre points de la signification de cette attestation, le fait de croire avec conviction à tout ce qu'il nous a informé, tout ce qu'il nous a dit. Il dit « وَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » Il n'y a pas de prophète après moi, je suis le sceau des prophètes. Ceci fait partie aussi des choses que ton attestation de foi implique. Il y avait un dernier point, on commencera par ce point-là, au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. J'ai un petit peu tardé pour l'explication de la ilaha illallah de par son importance. On va y rester simplement. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.